Bienvenue dans la série spéciale Développeurs en 2039. Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt ? C'est parti ! Dans l'épisode d'hier, on échangeait sur la question du sens du travail avec Isabelle. Et aujourd'hui, justement, j'échange avec Gilles Navarre. Gilles, c'est la personne qui s'occupe de nous faire les plus beaux, je devrais dire harmonieux épisodes possibles. Comment on dit beau pour du son, tiens, au fait ? Il m'aide au montage, mais aussi aux effets sonores. Au-delà de l'hommage à son travail, je trouvais intéressant de recueillir le témoignage de quelqu'un qui a fait le choix de vivre différemment, en pleine conscience. Il travaille à distance avec ses clients et dépend totalement d'Internet pour son boulot. Quels ont été ses choix ? Comment il en est arrivé là ? Je te propose d'écouter notre entretien. Bienvenue dans l'épisode 17 de la série Développeurs en 2039. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Navarre. Gilles, bonjour.
Salut Benoît.
Cher auditeur, tu ne le sais pas, mais si ce podcast a pris autant en niveau de qualité, c'est grâce à Gilles. Merci à Gilles pour ton travail. C'est l'occasion de... Je profite de cet épisode pour te remercier publiquement pour le travail que tu fais sur le podcast. Gilles qui nous aide à... pour tout ce qui est montage, travailler la piste, la rendre encore plus belle. Il est ingénieur son et je te laisse te présenter en quelques secondes.
Merci Benoît, je suis très touché par cet hommage. Alors, je m'appelle Gilles Navarre, j'ai 45 ans. Je suis expatrié en Thaïlande depuis quelques années, 8 ans maintenant. Et comme tu l'as dit, je suis ingénieur du son.
Ce qui m'a motivé à te faire participer à l'émission, c'est que dans la série 2039, j'essaye d'imaginer à quoi peut ressembler notre monde et notre mode de vie dans 20 ans. Et ce que j'ai trouvé dingue et vachement intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est de comprendre les choix de vie que tu as pu faire. Et si tu es OK pour les partager, ça serait top. Parce que tu as fait des choix de vie assez radicalement différents de ceux que pourrait faire n'importe quel occidental ou français qui naîtrait aujourd'hui en métropole. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces choix de vie et qu'est-ce qui t'a motivé à les faire ?
Alors en fait, vu de l'extérieur, ça a l'air de choix. Mais quand tu es dedans, ça en est toujours, mais ça n'en est pas vraiment. Ça n'en est pas plus que ce que tu as pu faire ou ce que n'importe qui d'autre a pu faire. Ça s'est fait vraiment de manière naturelle et très pas à pas. Tu sais, l'effet de, comment ça s'appelle, le pied dans la porte, quoi. Tu vois, le truc.
Il n'y a pas un jour où tu t'es dit « je change de vie ». Non, c'est progressivement, les choses sont faites, sont imposées à toi et tu as suivi ton intuition, quoi.
En fait, c'est pas pour moi. Enfin, c'est non. Le plus gros changement, ça a été je me suis pas posé la question comme ça. Ça a été je veux que mes enfants grandissent ici. Parce qu'en fait, ça c'est pas mon installation en Thaïlande. Elle s'est passée quand ma compagne est tombée enceinte, qui elle est thaï. Et donc moi, l'idée, comme tout occidental moyen, Thaïlande, c'est sympa pour les vacances, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, quoi. Et puis on nous l'a appris, quoi. C'est-à-dire, sorti de l'Occident, c'est la peste et le choléra, quoi. Il n'y a rien qui tient. Hein. T'as la chance d'être né en France. Tu vas pas aller vivre dans le tiers-monde, quoi. Donc voilà, moi, je véhiculais ces pensées. Normal. Dans un premier temps, j'étais comme tout le monde. Disons que ma rencontre avec la Thaïlande, elle s'est faite par les plages, par Bangkok, par quand tu viens de l'étranger, tout ce à quoi tu as accès, de prime abord. Et finalement, un peu plus tard, j'ai eu la chance donc de rencontrer la Thaïlande rurale. Et là, ça n'a rien à voir. C'est là en fait où j'ai commencé à vriller, quoi.
et quand tu dis ça n'a rien à voir, imagine un occidental qui arrive chez toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait le plus le surprendre ?
Pour répondre à cette question, j'ai envie de te résumer une situation. Ce qui pourrait le plus choquer un occidental, on va dire, qui viendrait de débarquer, c'est de voir un criminel de sang, un tueur multirécidiviste, passer son après-midi à rigoler avec des dames du troisième âge et tout est parfaitement normal. Sans tension, sans rien. Tout le monde sait ce que tout le monde. C'est tout petit ici, on est 150, hein, et c'est une famille.
Ah oui.
Tu vois, c'est. Donc
ouais. Tout le monde connaît la vie, tout le monde connaît les passés.
Bien sûr.
Mais tu me disais en même temps, il y a une certaine paix de vivre, c'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas des grosses conneries, il n'y a pas la petite délinquance, en fait.
Non, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir ici, on ne ferme jamais la maison à clé. Quoi. Parce que ça. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Parce que bon, en gros, t'as rien à y faire. Voilà, ça ressemble quand même à ce qu'on nous décrit comme un bidonville, quoi. Donc, si t'y habites pas, tu viens pas ici.
Est-ce qu'il y a vraiment besoin de forces de l'ordre établies ? Tu me parlais d'une forme d'autorégulation où, et d'ailleurs, quand les gens se faisaient des conneries, ben, ça pouvait très mal se finir, mais au moins, c'était clair, net et direct, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour te donner une idée, depuis 8 ans ici, j'ai jamais vu une bagarre.
Et tu parlais dans ce choix de mode de vie qui s'est imposé à toi, tu parlais des enfants, à quoi tu pensais en fait par rapport à tes enfants justement ?
Ce que j'ai voulu, la raison pour laquelle j'ai eu envie de m'installer ici et d'y voir mes enfants grandir, c'est pour qu'ils ressemblent en fait donc aux gens d'ici. Et ils leur ressemblent en quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, ils aient leur force, voilà, leur force. Et c'est cette même force qui fait qu'ils ne se bagarrent pas, ils n'en ont pas besoin. C'est juste qu'en fait, les gens ici, ils n'ont pas peur. Chez nous, on a peur. On vit dans la culture, on vit dans cette espèce de culture de la peur. Tu rentres à l'école, si tu ne travailles pas bien, tu n'auras pas de travail. Ça commence très très tôt, hein. Ça commence très très tôt. Ou par exemple, chez nous, voilà, un enfant, on va le mettre tout seul dans sa petite chambre. On va lui mettre une petite lumière quand même. Et un espèce de toki-waki, s'il braille, on vient le voir, mais après tu le relaisses tout seul. Bon, ici, ça n'existe pas. Ici, comment ça s'appelle, jusqu'à très tard, je peux te le confirmer, les enfants, on dort dans le même lit. Voilà, donc il n'y a pas, tu vois, ça paraît con, hein, mais déjà, ça enlève énormément de stress, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu vois, en gros, il y a plein de stress inutiles que nous, pour des raisons qui m'échappent un peu, on s'inflige. Et eux, non, ils n'ont pas eu cette idée à la con, quoi. Et donc, à la fin, ça fait des gens qui doutent pas. Bon, un autre exemple, hein, si tu vas au supermarché, qui est un peu plus loin d'un supermarché, à une dizaine de kilomètres, quand tu rentres dans le supermarché, le vigile, il te sourit. Il te sourit, le vigile, mais sincèrement. Ce n'est pas un sourire de politesse à la clientèle. Non, le vigile, il te sourit sincèrement. T'as déjà vu un vigile qui sourit au Leclerc ? Jamais.
Ouais, pas beaucoup,
jamais.
J'avoue. Ouais.
Et c'est la même idée. C'est la même idée, parce qu'au Leclerc, le gars, il est en stress. Mais, hein, il a été éduqué pour ça.
Mais alors, pourquoi il y a un vigile dans le supermarché du camp ?
C'est vraiment la question qu'on se pose. La réponse, elle est que la chaîne, c'était Skolotos. Enfin, selon moi, la chaîne, c'était Skolotos. Et je crois que c'est américain. Américain ou anglais, je ne sais plus.
Ah, et donc, ça fait partie des standards, quoi, en fait, probablement.
Voilà. Moi, c'est là. Parce qu'en vrai, le mec, il fout rien, quoi.
En tout cas, il surveille, mais il n'y a pas grand-chose à surveiller, visiblement.
Oui, voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas de vol, parce que le vol ici, c'est. Après, bon, il y a sûrement des gens qui se sont fait voler en Thaïlande, bien sûr, ça existe, mais c'est super marginal par rapport à chez nous. Voilà, un autre truc à la con, par exemple, tu vois, qui m'a fait réfléchir encore une fois sur où est-ce qu'on en est rendu. À quelques kilomètres de là, il y a l'équivalent d'un magasin des pompes funèbres, donc un gars qui vend des cercueils. Et bien, en fait, ce magasin-là, c'est pas qu'il n'y a même pas de porte, il n'y a même pas de façade, il n'y a même pas de vitre, il n'y a même pas de grille. Voilà,
c'est un atelier, quoi. Tu rentres et tu as les cercueils.
Ah, voilà, c'est pas fermé devant, tu vois, de jour comme de nuit. Chez nous, même un magasin de pompes funèbres, le mec, il tire la grille, quoi. Et tu vois, et là, du coup, ça te fait réfléchir, putain, merde, la vache. Et on s'en rend pas compte de ça, mais c'est vrai que nous, on en est là. C'est-à-dire qu'en fait, et le gars, quand il tire sa grille, franchement, je ne mets pas en doute le fait que s'il ne la tirait pas, il y aurait des choses qui se passeraient, quoi. Voilà, du vandalisme, j'en sais rien, pas des conneries, quoi. Et nous, on en est là, en fait, quoi. Alors, ça paraît tout con, hein, mais c'est assez difficile de se... Je ne sais pas si ça fonctionne, en fait, à l'écouter, mais je pense que vraiment, c'est toute une somme de détails, en fait, tu vois, à se l'écouter raconter comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment prégnant. C'est vraiment, mais quand tu le vis, c'est vraiment toute une somme de détails.
Et comment on pourrait faire cette expérience ? Comment on pourrait la vivre ? Est-ce que ça marche si tu le fais sur une courte durée ? Est-ce qu'il faut vraiment s'expatrier ? Est-ce que si on a envie de tester ça, il suffit de venir se perdre dans la forêt thaïlandaise ? Qu'est-ce que tu recommanderais à un occidental en manque de voyage ?
Alors, on peut déjà pas mal s'en imprégner sur une durée courte, même sur une semaine, si tu vas à la campagne, vraiment, mais à la vraie campagne, enfin voilà, c'est là où les gens vivent, bref, ouais, de manière traditionnelle, on va dire. Voilà, même si tu as une semaine à y passer, passe là, hein, ce sera toujours ça de prix. Alors évidemment, tu en apprendras moins que si tu y restes un an, mais ça vaut déjà pas mal le coup. Et c'est, comment dire, vous pouvez tout à fait le faire, quoi. C'est-à-dire que tu peux tout à fait débarquer dans n'importe quel village, tu seras bien accueilli, les gens seront contents de te voir. Enfin, en gros, tu seras aussi amusant pour eux que ces gens-là le seront pour toi. Enfin, il y a une espèce de... Ils aiment bien rigoler, ils aiment bien se moquer. Et donc, voilà, donc il y a une espèce de réciprocité comme ça qui peut se créer, tu vois, sur le fait que, tu vois, nous nous amusons les uns les autres. Enfin, c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'il faut...
Parce que j'ai bon enfant, quoi.
Voilà, par contre, ouais, faut que ça reste bon enfant. Faut pas aller pour se foutre de leur gueule, évidemment. Quand c'est drôle, pas... Bah non, elle rigole pas, tu sais pas. Non, quand c'est drôle, tu ris. Tu vois,
C'est simple. Quand je t'écoute, c'est que ça, les relations ont l'air simples et j'ai presque envie de dire saines, en fait.
Exactement.
Eh bien, Gilles, merci pour tous ces éléments qui, moi, en tout cas, me donnent envie de retourner en Thaïlande. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou te contacter, ils peuvent le faire comment ?
Ils peuvent toujours m'envoyer un email. Patan City, donc il s'écrit PHATHANCITY@gmail.com.
Merci Gilles pour ta participation.
Avec grand plaisir Benoît. À bientôt.
Au revoir. Je reste bluffé par la clairvoyance de Gilles et son courage. Je le suis d'autant plus que je suis trop attaché à mon petit confort. Et si je trouverais l'expérience intéressante à vivre, je n'en ferais pas mon mode de vie. Et pourtant, ce serait tellement plus frugal et plus simple, et j'aspire à cette simplicité. Ce serait probablement plus sain aussi pour mes enfants. Ça me rend fou de les voir péter un câble quand ils n'ont pas leur dose de Fortnite. Mais je suis pas prêt à passer le pas. Le mode de vie à la Captain Fantastic restera un fantasme, et je garderai ma maison de pierre et de briques bien chauffée. Il me reste encore pas mal de chemin à parcourir sur la voie de la frugalité. Bon, si on en revient à cette histoire de travail à distance, tu vas me dire, ton truc c'est cool pour un gars, mais ça marche comment pour toute une boîte ? Eh bien, c'est ce que j'ai voulu comprendre en allant échanger avec Maxime, le fondateur d'Oclock, une école en ligne de développeurs 100% remote. Et ils sont 50. Oui, 50, 100% télétravail. Quels sont les avantages qu'ils voient dans ce mode de travail ? Quels sont les écueils ? On en parlera dans l'épisode de demain. Et d'ici là, je t'invite à rejoindre la Maison des Compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr pour affûter tes compétences durables de développeur. C'est sur maison.artisandeveloppeur.fr. Et maintenant, place à la fiction développeur en 2039. À demain.
Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance ?
Assez pour risquer ma vie avec lui.
Pourquoi il fait ça ? Il vient d'arriver. Pourquoi risquer sa vie pour des gens qu'il connaît à peine ?
Bah, tu sais, il n'a pas tiqué retour pour Atlantis. Et je crois qu'il a des comptes à régler en plus.
Tu penses qu'il peut vraiment nous faire entrer sur le cœur du réseau ?
Bah écoute, s'il lui dit oui. Il était vraiment doué comme DevOps dans la boîte. Il avait un bel avenir. Mais à un moment, il devait faire des choses qu'il ne voulait pas, alors ça lui a coûté sa place.
Et s'il regrettait ?
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire ?
Et si c'était un moyen de se racheter en nous vendant ?
Ben si c'est ça, on est tous foutus.
Tu me rassures pas du tout, là.
Mais t'as autre chose à proposer ?
Si c'était le cas, je l'aurais déjà fait. Mais si on veut sauver les hommes, on est coincé avec ce merdier de système de sécurité. Ils ont mis des caméras partout. Chaque centimètre carré d'Atlantis est scruté en permanence.
Donc on est d'accord, on croise les doigts et puis...
Ils arrivent ! Prépare-toi pour le briefing. On passe à l'action cette nuit.